Le journal avec Florence Paracuelos, évidemment. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un cargo qui fait naufrage, un Brexit à la dérive et un avion synonyme d'accident industriel. Menace de pollution sur le littoral atlantique, les côtes pourraient être touchées dimanche. Nous serons en direct de Quimper dans un instant. À Londres, on verra que les pro-Brexit sont foudrage alors que le processus est encalminé au Parlement. Et puis c'est un crash mondial pour Boeing. Le 737 ne vole presque plus nulle part, ni au Canada, ni aux États-Unis. Désormais, à la une également, l'affaire du siècle et ce recours en justice déposé aujourd'hui contre la France pour inaction climatique. Vos invités seront là pour ça, Nicolas.
Oui, les quatre organisations qui ont entamé cette procédure inédite, Oxfam, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Greenpeace France, au micro d'Inter tout à l'heure, vous pouvez participer au débat. 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, plus question de tuer au nom de l'État en Californie. Le gouverneur là-bas vient de décréter un moratoire sur la peine de mort avec des arguments choc. Des surveillants de prison qui ne veulent plus risquer leur vie en France. Ils seront reçus par la ministre de la Justice aujourd'hui. Et une passion française, la généalogie, un salon a lieu en ce moment à Paris. Rendez-vous des patronymes improbables aux ancêtres célèbres.
France Inter.
C'est une nappe de fioul à la dérive dans un océan déchaîné, des vagues de 6 mètres au large de La Rochelle où le Grande America a coulé à pic avant-hier. Cette pollution qui s'en échappe se dirige vers les côtes de Charente et d'Aquitaine. Bonjour Valérie Lenigène. Valérie Lenigène.
Bonjour, bonjour Florence, est-ce que vous m'entendez?
Oui, vous êtes là, vous êtes bien là à Quimper. Valérie, à quoi ressemble cette nappe? Est-ce qu'elle va souiller les côtes françaises?
On n'en sait rien, mais c'est un risque qu'il va falloir évaluer, réévaluer heure par heure. On sait que c'est une nappe de 10 km de long et d'un kilomètre de large qui dérive à 330 km à l'ouest de La Rochelle. Selon François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, elle pourrait atteindre le littoral dimanche soir ou lundi au regard des vents, des courants. Cela pourrait concerner la côte entre la Charente-Maritime et la Gironde. À Brest, hier soir, le préfet maritime a fait appareiller l'Argonaute, ce navire anti-pollution qui est attendu sur zone ce matin. Ils vont tenter de pomper une partie de la nappe et d'installer des barrages flottants, mais rien n'est évident vu la mer déchaînée. Il s'agit probablement de fioul lourd, du fioul de propulsion qui dérive en nappe visqueuse, mais qui peut aussi se transformer en boulette de pétrole en arrivant sur la côte. Ce qu'il va falloir faire, c'est aussi évaluer combien de fioul s'est échappé et s'il en reste beaucoup dans les cuves. Le préfet maritime a demandé à l'armateur, la société Grimaldi, d'aller évaluer l'état de la coque et d'envisager un pompage. C'est difficile à 4600 mètres de fond, mais ce n'est pas impossible.
Alors d'où cette question, Valérie, est-ce qu'il faut se préparer à une catastrophe écologique majeure?
Non, il faut relativiser. Ce n'est pas l'Erika ou le Prestige. L'Erika, en 99, on parlait de 30 000 tonnes de fioul lourd. Le Prestige, ce pétrolier en 2002, c'était 70 000 tonnes en soute. Là, non, on parle de 2200 tonnes de fioul de combustion. C'est sans commune mesure. Alors, il y a aussi, cette fois, des conteneurs avec des matières dangereuses, 45, notamment de l'acide. Mais là encore, les experts pensent que la plupart ont brûlé. Pour les autres, il va falloir les récupérer, mais on ne s'avance pas vers une catastrophe écologique majeure.
Merci Valérie Lenigène, en direct de Quimper. L'association Robin des Bois veut porter plainte tout de même contre l'armateur du navire pour pollution et abandon de déchets. Et voilà encore un naufrage. Celui du Royaume-Uni qui coule à 15 jours du Brexit. Les députés britanniques ne veulent ni d'un accord, ni d'un Brexit sans accord. Ils ont rejeté hier soir cette dernière possibilité. Du coup, Theresa May va de nouveau leur soumettre le texte qu'elle a ficelé avec Bruxelles d'ici mercredi prochain. Et si cet accord ne passe toujours pas, il a déjà été retoqué deux fois, alors, dit-elle, il faudra demander un report du Brexit au-delà du 30 juin et organiser des élections européennes. Fureur des pro-Brexit. Pour eux qui veulent rompre coûte que coûte, c'est une trahison. Ils l'ont dit sous les fenêtres du Parlement hier soir au micro d'Antoine Gignot.
Ils sont venus du Pays de Galles, des Midlands, de la banlieue de Londres aussi pour manifester. Et le résultat du vote, ils n'arrivent pas à y croire.
On est stupéfaits, stupéfaits, c'est dégoûtant. Ils sont censés voter en représentant l'opinion des citoyens britanniques.
75% des députés veulent rester dans l'Union européenne. Mais comme ils n'aiment pas le résultat du référendum, ils veulent le modifier. Ils s'attaquent à la démocratie. C'est totalement inacceptable.
Si on ne quitte pas l'Union européenne, le 1er avril, on arrête de payer nos impôts.
Et l'inquiétude gagne même le gouvernement. Un report du Brexit à long terme obligerait le Royaume-Uni à organiser des élections élections européennes, avec potentiellement un deuxième référendum, de quoi inquiéter les eurosceptiques, comme le ministre du Commerce Liam Fox.
Ce que je crains, c'est qu'il y ait un risque que le Brexit n'ait jamais lieu. Au Parlement, il y a un très grand nombre d'élus dont le but principal n'est pas de mettre en place une sortie de l'Union européenne. Ils veulent nous laisser prisonniers de l'Union européenne.
Une Union européenne de moins en moins patiente face à la tournure des débats et qui, de toute façon, n'acceptera peut-être pas de reporter le Brexit. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Il est 8h06, les boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines, en route Florence pour Paris.
C'est le BEA, le Bureau français d'enquête sur les accidents aériens, qui va se charger de leur analyse. L'Ethiopie n'est pas équipée pour le faire. Mais d'ores et déjà, des éléments laissent à penser que l'accident de dimanche à Addis Abeba a des points communs avec celui du mois dernier, du mois d'octobre, en Indonésie. Et ce sont ces éléments qui ont décidé le Canada, puis finalement les États-Unis, à suspendre à leur tour les vols de 737 MAX. Les 350 appareils en service dans le monde sont donc désormais quasiment tous cloués au sol. Une crise à plusieurs millions de dollars par jour pour Boeing, qui a mis toutes ses équipes techniques sur le pont, comme l'explique Xavier Tittelmann, expert aéronautique, au micro de Delphine Evenou.
On a des dizaines de milliers de personnes qui vont travailler. La dernière fois qu'il y avait eu une évolution de ce type, c'était quand le Boeing Dreamliner avait été interdit de vol en 2013. Il y avait 200 000 heures ingénieurs qui avaient été utilisées pour mettre à jour l'avion. Maintenant, c'est un problème qui est déjà connu. C'est pas comme si on avait un accident qu'on ne comprenait pas. Là, ils ont l'origine, donc ils vont reconfigurer leur système. C'est certainement des ordinateurs de bord, des logiciels à reconfigurer et à travailler. Il est clair que, au niveau américain, au niveau de la certification, la nouvelle certification de l'avion qui va être obligatoire, il y aura des vols tests pour vérifier que le système fonctionne correctement, y compris dans des conditions dégradées.
Voilà, et selon cet expert, la résolution du problème devrait prendre plusieurs semaines. C'est ce qui s'appelle ne pas faire le voyage pour rien. Le français Vinci, dans les bagages d'Emmanuel Macron au Kenya, vient de récupérer la concession d'une autoroute là-bas pour 30 ans et 1,6 milliard d'euros. Le président qui a donc fait d'une pierre deux coups à Nairobi des affaires pour la France et des promesses pour le climat au sommet pour la planète. Alors que les quatre ONG à l'origine de l'affaire du siècle, pétition à plus de 2 millions de signatures, déposeront aujourd'hui un recours contre la France pour inaction climatique, Emmanuel Macron promet d'infléchir sa politique. Et nous nous sommes demandé sur France Inter ce qu'était devenu son Make Our Planet Great Again, lancé au lendemain de l'élection de Donald Trump, et sa proposition d'asile scientifique pour les chercheurs américains. Il y en a 27 en poste aujourd'hui, plus ou moins bien accueillis, Sophie Becherel.
32 avaient été choisis. À ce jour, seuls 27 sont arrivés et en poste. La faute aux complications administratives, parfois non anticipées. C'est le cas pour Barbara Ervens. Cette physicienne américaine modélise les nuages pour en comprendre la formation. Elle a débarqué à Clermont-Ferrand un samedi de juin. Pas de logement, pas de voiture, pas d'informations sur la vie locale ou les formalités type impôts, sécurité sociale.
Maintenant, ça va, mais les débuts ont été difficiles. La bureaucratie ici, c'est juste terrifiant. Rien n'avait réellement été préparé avant mon arrivée. Je n'avais pas d'ordinateur, pas de bureau. Donc j'ai passé les deux premiers mois à essayer de m'organiser. Partout où j'ai travaillé, j'ai eu plus d'aide qu'ici.
Avec des enveloppes de 1 million à 2 millions et demi d'euros sur 5 ans, ces projets sont ambitieux. Ils permettent aux chercheurs de recruter une équipe. Laurie Hamelin a eu moins de difficultés que Barbara. Cette Canadienne spécialiste de transition énergétique dresse un bilan plutôt positif après 9 mois, même si son salaire a baissé des deux tiers.
Je suis assez satisfaite parce que les moyens qu'on m'avait promis, on me les a donnés. Donc j'ai commencé à embaucher les gens. Les gens, ils ont une très bonne réaction en général. Quand je parle du projet, quand je veux collaborer, je ne veux pas refaire ce que les autres ont déjà fait. Donc, j'essaie de bien comprendre ce qui est en place. Jusqu'à maintenant, je suis assez satisfaite, oui.
Les situations varient suivant que c'est un organisme type CNRS ou une université qui accueille les chercheurs. Globalement, les lauréats sont d'accord. Pour la recherche, c'est Jean qui rit. Pour l'administratif, c'est Jean qui pleure.
Sophie Becherel, et demain, grève scolaire mondiale pour le climat avant une marche du siècle samedi en France à l'initiative de plus d'une centaine d'ONG. Cette fois, c'est officiel. Les 737 condamnés à mort de Californie ne seront pas exécutés. Le gouverneur de l'État le plus peuplé des États-Unis a décrété un moratoire sur la peine de mort avec des arguments chocs. Loïc Piala est à Los Angeles pour France Inter.
Pour justifier sa décision face aux médias, le gouverneur Gavin Newsom a cité une étude de l'Académie nationale des sciences. Un condamné à mort sur 25 serait innocent.
Ça veut dire que si on exécute les 737 prisonniers dans le couloir de la mort en Californie, nous aurons tué 30 innocents. Je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas associer mon nom à cela. Je ne pourrais pas endormir. Avons-nous le droit de tuer ? Si vous violez quelqu'un, l'État ne vous viole pas. Il ne doit pas tuer si quelqu'un tue. Nous valons mieux que ça.
Sans surprise, Human Rights Watch se réjouit de la mesure. John Raffling, l'un des responsables de l'association à Los Angeles, explique qu'au-delà de son coût, 5 milliards de dollars depuis 1978, la peine de mort est surtout marquée par la discrimination.
Les Noirs sont exécutés à un rythme bien plus élevé que les Blancs. Et les Noirs dont les victimes sont blanches sont exécutés à un rythme extraordinairement plus élevé. Ça montre à quel point le système est arbitraire dès qu'il s'agit de la race de la victime ou du coupable. C'est un système très injuste.
Dans un État qui a voté à plusieurs reprises contre l'abolition, des proches de victimes et des procureurs ont déjà fait part de leur mécontentement. Mais malgré le moratoire, les juges californiens peuvent toujours prononcer une condamnation à mort. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Eux n'en peuvent plus de risquer leur peau en prison, mais pour d'autres raisons. Les surveillants pénitentiaires continuent à bloquer des établissements. 10 jours après l'agression de 2 dealers à Condé-sur-Sarthe, le relique arrive. Leurs syndicats seront reçus aujourd'hui par la ministre de la Justice.
Quoi qu'elle annonce, Nicole Belloubet aura du mal à contenter tout le monde. Sur le diagnostic, les 2 principaux syndicats pénitentiaires sont d'accord. Sur les solutions, c'est autre chose. Pour l'UFAP, la priorité, c'est que se concrétisent enfin les engagements pris l'an dernier au terme d'un très long mouvement de contestation dans les prisons, à savoir des quartiers étanches, sécurisés pour les détenus radicalisés, mais aussi des moyens matériels pour les surveillants avec des gilets anti-armes blanches. Par exemple, Jean-François Forget, secrétaire général du syndicat, défend une approche réaliste.
C'est qu'on aille le plus loin possible dans ce qui est crédible et raisonnable de faire. Déjà, que l'on nous mette les personnels adéquats en nombre dans tous les établissements, c'est la première des sécurités. Que l'on aille sur des structures spécialisées en profilant la population pénale, qu'on arrête de nous mélanger tous les profils, ça sera déjà une révolution.
De son côté, FO Pénitentiaire ne veut pas, je cite, de mesurettes. Généraliser les gilets anti-armes blanches, une fausse bonne idée, explique son numéro 1, Emmanuel Baudin.
Comme on n'est pas capable d'assurer la sécurité dans un établissement, on va essayer d'arnacher et de protéger les agents. Alors on va leur mettre un gilet, la prochaine étape, ça sera quoi? De leur mettre un casque. Et puis le risque, dès lors que les détenus savent que vous avez le gilet, c'est qu'ils vont systématiquement viser la tête.
Ils réclament entre autres des bombes à poivre pour certains surveillants et l'expérimentation de pistolets à impulsion électrique.
Comme un souffle d'air pour LR, une embellie dans les sondages à 2 mois des européennes. Le parti est crédité de 14% des intentions de vote alors qu'il plafonnait sous les 10% au mois de décembre. De quoi requinquer les militants réunis hier soir au siège du parti pour un meeting des 3 têtes de liste. François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Dan. Ça sentait l'enthousiasme, Élodie Forest, qui n'était plus arrivée depuis longtemps.
À l'applaudimètre, Laurent Wauquiez, venu en début de réunion encourager ses troupes, n'a pas à rougir.
Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La liste qui a le plus progressé, c'est celle des Républicains.
Mais dans la salle, c'est bien François-Xavier Bellamy que l'on attend avec impatience. La tête de liste dont les colistiers tressent les louanges.
Je pense que nous avons la tête de liste que tout le monde nous envie.
Je crois que cette expérience de campagne va être assez éprouvante parce que je continue de rougir tous les soirs quand j'entends Arnaud et Agnès. Mais j'affronte ce défi avec une très profonde humilité.
De la modestie, mais aussi une ambition affichée clairement, incarner une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Vous avez le choix. C'est pas blanc ou noir, c'est pas pour ou contre l'Europe, c'est pas Le Pen ou Macron. Dans cette élection, nous voulons avoir le choix. Et le choix que nous voulons faire, c'est le choix d'une Europe qui nous permette de ne pas subir notre avenir.
François-Xavier Bellamy qui indéniablement séduit son public.
Bellamy, il est devenu une star, faut dire la vérité. Il est jamais agressif, il est apaisant, il n'y a pas d'hystérie, c'est pas mal.
Il y a une pensée qui est très construite, qui à mon avis va le porter très loin.
Des militants unanimes se laissant aller hier soir à l'espoir et à la joie d'un consensus plutôt rare à droite.
Toujours à la page politique, un duel Le Pen-Loiseau dans l'émission politique avec Léa Salamé ce soir sur France 2, une anti-européenne face à la ministre chargée de la question, ce qui pourrait bien mener la liste de la majorité. Ces deux-là ont déjà un long passif d'échange d'amabilité derrière elles. Passion généalogie, Nicolas, passion française qui tient salon en ce moment à Paris. Sébastien Sabiron a rencontré pour nous l'un de ces passionnés généalogistes amateurs dans les Yvelines, dont l'un des patronymes peut être un peu gênant.
Donc là, vous voyez un arbre généalogique, c'est le mien.
Dans son petit bureau en sous-pente, Joël passe des heures devant son ordinateur. Ingénieur en retraite, il a découvert la généalogie en cherchant l'origine de son nom de famille.
Mon patronyme, c'est Nizar. Le patronyme de ma mère, c'est Salope. C'est comme ça. et je connais tous les nisards qui descendent dans la même branche.
Mais pas les salopes.
C'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a plus. Et mes recherches étaient essentiellement basées dans le Pas-de-Calais, mais les salopes se sont un peu étalées.
Joël s'est découvert quelques cousins célèbres.
François Hollande, Robespierre et aussi le chanteur Renaud.
Et des ancêtres jusqu'au XIIIe siècle. Un travail minutieux facilité désormais par le numérique.
Lorsque j'ai commencé ma généalogie en 2002, il y avait peu de choses sur Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. La plupart des archives départementales sont en ligne. On a encore besoin de se rendre sur place pour enquêter avec les sources qui ne sont pas en ligne, c'est-à-dire les actes notariés, les dispenses consanguinité et bien d'autres.
Mais en ouvrant la pratique au plus grand nombre, le web génère aussi des fake news généalogiques, au grand regret de Joël.
Il y a des personnes qui n'ont jamais regardé un seul acte d'état civil, qui ne sont jamais allées dans la moindre mairie, qui se contentent de recopier plus ou moins bien à gauche et à droite les généalogies qui sont déposées. Ça induit des erreurs qui se propagent.
Et au-delà de l'outil Internet, la généalogie à la française s'appuie aussi sur un tissu associatif parmi les plus denses du monde, une fédération de 153 associations et plus de 62 000 membres.
Voilà, la généalogie, c'est pour tous les noms, Nicolas. Le salon se tient donc à Paris, à la mairie du 15e arrondissement, jusqu'à samedi. Enfin, c'était à prévoir, hélas, pour les Lyonnais. Ça ne s'est pas bien passé pour eux hier soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions Barcelone. Les Aétriers, 5-1. Il n'y aura donc pas de club français cette année en quart de finale, mais 4 clubs anglais. Liverpool, qui a renvoyé le Bayern au vestiaire hier soir, Tottenham et deux Manchester avec Barcelone et la Juve, tirage au sort demain, Nicolas.
Merci Florence Paracuelos.